Radio Stable.
Morning Edition from NPR
News.
Lo que se reproduce esto en la radio.
France Inter. Le 18-20.
Zwentendorf a aujourd'hui d'autres fonctions. Elle sert notamment de centre d'entraînement au démantèlement.
Le nucléaire en Autriche, c'est fini, on démantèle. Mais comment ça a marché? Qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes d'emploi? Eh bien, vous le saurez, c'est l'escale reportage d'Un jour dans le monde ce soir. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu avec notamment des morceaux de Dolly Parton à l'intérieur. 18h50, la chronique pour tous de Julia Foyce, comme chaque mardi, avec une affaire de tâches ménagères réparties au Maroc en plein ramadan. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four et Erdogan qui a réussi à faire revoter à Istanbul. Il y a de la ressource, ce président qu'on croyait affaibli. Avant cela, c'est au Bénin que nous allons. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Deux Français donc enlevés au nord du Bénin ce 1er mai, le 1er mai dernier, dont on n'a aucune nouvelle, si ce n'est que leur chauffeur a été retrouvé mort. Ça, vous le savez, cette nouvelle fait craindre que le chaos malien, déjà contagieux avec le Burkina Faso juste au-dessous, descende encore un peu plus vers le Bénin et autour également. Est-ce que ces craintes sont justifiées? Bonsoir Thomas Hofnung.
Bonsoir.
Vous êtes chef des rubriques politiques et internationales pour le site The Conversation. Vous êtes spécialiste de l'Afrique. Vous avez écrit notamment avec Antoine Glaser, Nos chers espions en Afrique, et c'est publié chez Fayard. Je voudrais qu'on fasse un tout petit peu de géographie, si vous le voulez bien. Le Pendjari, le parc où les deux Français ont été enlevés, c'est tout au nord du Bénin, donc collé au Burkina. Est-ce qu'on dit terrain à risque de toute façon ou pas finalement?
C'est une zone reculée et on sait que les groupes djihadistes et criminels, hein, il faut les distinguer, aiment ce genre de zone. Quand vous pouvez vous replier, sauter les frontières, d'autant plus que le Bénin est un pays tout en longueur, en quelque sorte un pays côtier, et la partie la plus utile, elle est au sud, elle est le long de l'océan, et donc cette zone finalement elle est assez délaissée, y compris au niveau sécuritaire.
On avait toujours considéré, mais peut-être qu'on se trompe, d'ailleurs c'est pas forcément le cas de ces derniers jours, que le Bénin était une sorte d'îlot de stabilité dans ce chaos de cette partie-là de la région de l'Afrique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était toujours le cas? C'était toujours vrai ou pas d'ailleurs?
Oui, disons que depuis quelques mois, comme certains experts avaient repéré des cellules, des petits groupes qui circulaient dans cette zone, notamment dans ce parc où ont été enlevés les deux Français. Donc, y a un effet de contagion. Hein, et finalement, ces groupes, bien sûr, ils se jouent des frontières, ils circulent et rien ne les arrête. Et c'est vrai que le Bénin était un peu à la périphérie du chaudron, si on peut dire. Mais il est tout près.
Et des petites cellules, comme vous dites, qui s'implantent peu à peu, qui se parlent entre elles, qui sont coordonnées entre elles, ou au fond, non, en fait, et c'est peut-être ça qui rend les choses encore plus difficiles.
Oui, c'est des groupes extrêmement mobiles, qui ont appris aussi à communiquer le moins possible par des moyens technologiques, parce qu'ils savent qu'ils peuvent être écoutés par les services de renseignement, par les grandes oreilles occidentales. Donc, c'est des groupes qui sont très difficiles à identifier et à repérer.
Et qui se réclament de qui, quand on dit qu'ils sont très difficiles à identifier? Est-ce qu'on sait de qui ils se réclament réellement? Est-ce qu'on peut vraiment les rattacher à l'État islamique, au Grand Sahara, à d'autres? Est-ce qu'on peut vraiment les identifier ou c'est là aussi très compliqué?
C'est compliqué aussi dans le sens où bien souvent, finalement, ce genre de kidnapping peuvent être effectués par des braconniers, des bandits de grand chemin ou des petits bandits qui voient là un effet d'opportunité et qui se disent qu'ils peuvent gagner de l'argent en revendant ensuite ces otages à des groupes djihadistes qui, pour le coup, eux, ont des moyens. Et alors, ces groupes djihadistes, effectivement, il y a une sorte de myriade de groupes, on s'y perd, et c'est très fluctuant, c'est très fluide, mais il y a effectivement, disons, deux grandes obédiences. Il y a l'État islamique qui essaie de s'implanter dans cette zone, et puis Al-Qaïda qui est présent sur place depuis des années, via des groupes qui sont au départ descendus de l'Algérie. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ça, c'est en quelque sorte, il y a un grand mouvement qui descend vers le sud.
Vous l'avez dit, l'État islamique, Al-Qaïda, si on regarde de l'autre côté de la carte, Boko Haram, on n'est jamais vraiment très loin. Est-ce que ces deux grosses masses se parlent également? Est-ce que le danger est là aussi, dans des allers-retours qu'il peut y avoir entre ces deux grosses masses de terrorisme, on va dire?
Alors pour l'instant, ces connexions ne sont pas véritablement avérées. C'est vrai, quand il y a eu l'opération Serval, l'opération française au Mali en 2013, on a su ensuite que il y a eu des saisies d'ordinateurs, de téléphones mobiles par les troupes françaises de l'opération Serval. Et donc tout ça a été décrypté et on a vu qu'il y avait quelques contacts entre Boko Haram, donc qui opère au Nigeria, comme vous l'avez dit, et puis les groupes djihadistes au Mali. Mais c'était des contacts assez marginaux. Donc, disons que c'est plutôt la hantise des services de renseignement occidentaux, c'est qu'il y ait cette jonction qui se fasse. Et effectivement, justement, quand on voit le Bénin, on est typiquement dans cette zone qui pourrait permettre de faire la jonction entre Boko Haram au Nigeria et les groupes djihadistes au Mali, plus au nord dans le Sahel.
Mais est-ce qu'on imagine, quand ces groupes existent, que c'est juste, je mets des guillemets, des groupes qui viennent, qui traversent la frontière et qui s'installent, quitte à repartir derrière, ou est-ce qu'il y a quand même un terreau, en fait, dans ce Bénin-là, mais comme dans le Togo voisin, par exemple, sur lequel on peut prospérer? Parce qu'on se souvient sur quoi prospérer ces groupes au Mali, par exemple, c'était plutôt très clair, avec des instabilités, y compris des guerres ethniques, ce qui est moins le cas au Bénin. Donc sur quel terreau ça prospère, en fait, dans un pays comme celui-là?
Alors là, effectivement, je pense que dans ces pays que sont le Togo, par exemple le Bénin, c'est des pays où ce genre de groupes vont avoir du mal quand même à s'implanter au sein de la population. Par contre, et ça vous avez raison de le souligner, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, ces groupes, ils ne sont pas totalement, on peut pas dire qu'ils soient totalement exogènes, c'est-à-dire que pour se développer, forcément, ils s'implantent, ça veut dire qu'ils ont bénéficié d'une forme de complicité ou alors de soutien tacite. Ils agissent à la fois par la coercition, par l'intimidation, mais aussi parfois ils séduisent aussi par rapport à des États qui sont défaillants, c'est notamment le cas au Mali, et c'est de plus en plus le cas, semble-t-il, au Burkina Faso.
Ah oui, et donc au Bénin, est-ce que quand même cette instabilité-là, quand vous dites qu'elle aura du mal à s'accrocher, au fond, à quoi elle peut quand même s'accrocher, à quoi ces groupes-là peuvent s'accrocher, ou est-ce qu'encore une fois, c'est vraiment une espèce d'opportunité à un moment précis, en fait
Alors déjà, c'est bien sûr, ce sont des groupes islamistes, donc bien sûr, il faut que la population soit musulmane. Au Togo, la population est chrétienne, au Bénin aussi, en grande partie. Donc, elle prospère aussi pour des raisons sociologiques et sociales. Et encore une fois, c'est plus le cas au Mali, où par exemple, les groupes islamistes et les courants aussi qui viennent de l'étranger, qui viennent d'Arabie Saoudite, du Pakistan, etc., se sont implantés parce que quelque part, ils représentent une forme d'alternative à un État central, à Bamako, qui est défaillant, et ça depuis des années, malgré un soutien, malgré l'aide au développement. Et ça, c'est un vrai problème, notamment pour les Occidentaux. Intervenir militairement, ça peut permettre d'enrayer d'une certaine manière la progression, mais la progression militaire, pas la progression finalement dans les esprits.
Et c'est ce qu'on a vu au Mali d'ailleurs, parce que poussé au fond au nord Mali, poussé par les militaires, notamment les militaires français, on a vu les djihadistes entrer plutôt vers le centre Mali et puis descendre au fur et à mesure. Est-ce que le but du jeu au fond, c'est bien ce qui est en train de se passer avec le Bénin peut-être, c'est l'accès à la mer en fait? Est-ce que c'est ça finalement le but ultime?
Oui, c'est ce qu'on dit, mais très honnêtement, ce que disent certains, mais très honnêtement, je vois pas les groupes djihadistes s'emparer de villes entières. Il y a eu ce cas-là au
Mais
Mali.
Mais d'un accès, en fait, non?
Un accès vers la mer, ça peut être un but d'un point de vue géostratégique. Moi, je pense surtout que, par exemple, ce type d'action au Bénin, c'est une action ponctuelle, mais que ça fait beaucoup de dégâts. D'abord parce que ça peut déstabiliser l'économie d'un pays qui est un pays pauvre, le Bénin, qui est un pays fragile, qui dépend du coton, par exemple, mais aussi du tourisme. Donc, et puis ensuite, ça exerce bien sûr une pression très forte sur la France, qui est un pays très impliqué, on sait, dans la région, et qui va devoir mobiliser d'autres moyens. Vous voyez, c'est en quelque sorte le dispositif militaire français, il court après cette extension du domaine de la lutte terroriste, des groupes djihadistes.
Les militaires français, le G5 Sahel, tout ce qu'on a pu installer en fait dans cette région-là court, hélas, derrière les groupes djihadistes de toute façon, non? Qui peut avoir prise en fait sur ces groupes-là aujourd'hui, au moment où on se parle, Thomas Hoffman?
Très honnêtement, je pense que ce ne sont pas les Français, c'est les acteurs locaux. Et ça pose la question de la gouvernance, du développement économique, du partage du pouvoir, de la redistribution. Et au Bénin, justement, en ce moment, il y a un gros problème politique. Le président Patrice Talon, qui est un businessman qui a fait fortune dans le coton et dans les activités portuaires, est dans une sorte de dérive autoritaire. Il y a des troubles à Cotonou et comme par hasard, justement, il y a cet enlèvement qui se produit comme s'il y avait une faiblesse et que les groupes... c'est peut-être une simple coïncidence. En tout cas, ça coïncide avec ces problèmes politiques
au
sud.
Et la réponse du Bénin, d'ailleurs, a été quoi? La réponse du gouvernement à Cotonou à cet enlèvement a été quoi? Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience, en effet, que cette faiblesse-là peut arriver à être une espèce de succursale de ce qu'on a vu se passer au Mali ou au Burkina Faso?
Oui, alors d'un point de vue strictement politique, de politique intérieure, non, ça ne change pas grand-chose, je crois, pour le président Talon face à ses opposants. Par contre, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience maintenant, hélas, un peu tardive, des risques sécuritaires qu'il peut y avoir dans le nord du pays. Ces risques, ils avaient déjà été soulignés par d'autres pays riverains, notamment par le Burkina Faso, qui voyait ces groupes très mobiles essayer de descendre vers le sud. Mais comme vous l'avez dit, ces groupes, en fait, ils descendent descendent parce qu'ils sont traqués. Et donc, finalement, ils mènent des actions coup de poing qui, encore une fois, sont peut-être ponctuelles, mais qui ont des effets durables.
Abdou Wahid El-Sahraoui, qui est le leader de l'État islamique dans le Grand Sahara, c'est qui, en fait ? Son influence, elle dit quoi ? Qui c'est, ce personnage ?
Il fait partie de ces personnages qui surgissent un peu du néant, vous voyez. Mais en fait, il y a plein de personnalités comme ça qui ont émergé ces dernières années, qui étaient vraiment inconnues. Et lui, il s'est rattaché à l'État islamique justement pour se faire connaître. C'est une sorte de division au sein de ces groupes djihadistes, de cette nébuleuse djihadiste. Et Sahraoui, lui, a fait allégeance à l'État islamique. Je voudrais noter aussi, quand même, souligner que al-Baghdadi est réapparu.
Bien sûr, qui a fait sa réapparition récente.
Dans une vidéo, c'était le 29 avril, et dans laquelle, dans ce message, il appelait à frapper les intérêts français. Il a cité nommément le Mali et le Burkina Faso. Et donc, deux jours plus tard, il y a cet enlèvement au Bénin, et on sait que, visiblement, les ravisseurs des deux Français sont passés au Burkina Faso. Donc, on voit qu'il y a cette-là, pour le coup, sans doute des connexions entre l'État islamique central, si je puis dire, et puis Sahraoui, donc qui a prospéré dans ce chaos malien au départ et aussi maintenant au Burkina Faso.
Ce qui semble dire, et alors pour l'instant effectivement on manque d'informations, mais ce qui semble dire que c'est pas un enlèvement opportuniste, au fond c'est quelque chose de nettement plus prémédité, y compris politiquement, non ?
Alors il y a toujours un effet d'opportunité quand même. On signale, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être des...
Ça peut être des braconneurs, des braconniers aussi.
Des braconniers, voilà, dans ces parcs, il y a beaucoup de braconnage, on le sait. Et donc, peut-être deux touristes français ont été repérés. Ou alors, encore une fois, on est obligé d'échafauder des hypothèses, ou alors ils sont en service commandé. Mais donc, cet enlèvement a peut-être pas été mené directement par les groupes djihadistes. Il y a, en quelque sorte, des intermédiaires.
Qu'est-ce qui peut se passer dorénavant ? Pourquoi il n'y a pas eu de revendication, par exemple ? Est-ce que c'est normal dans ce genre de pratique, finalement ? Est-ce que ça viendra ? Est-ce que c'est vraiment utile, d'ailleurs, qu'il y en ait une ? Utile pour eux ? Comment ça se passe dans ces cas-là, après ?
Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est que s'il n'y a pas eu de revendication, et peut-être que le temps, justement, est très important et le temps est compté, c'est que ces deux Français enlevés n'ont pas encore été remis au groupe commanditaire de l'enlèvement, si je puis dire. Donc, peut-être qu'il est encore entre les mains de ces braconniers ou de ces bandits de grand chemin. Et revendication, il y aura quand ils auront été remis à un groupe djihadiste, peut-être l'État islamique au Grand Sahara ou un groupe affilié à Al-Qaïda. Et là, ça sera beaucoup plus dur de les récupérer.
Lorsqu'on parle, vous disiez effectivement, on parlait du Mali, du Burkina qui est en dessous, du Bénin qui est juste là, du Togo qui est à côté, de la Côte d'Ivoire aussi derrière. J'ai envie de dire jusqu'où, en fait, jusqu'où cette bande-là est attaquée, j'allais dire, non, c'est pas le mot en fait qui convient, concernée, on va dire, par ces mini-groupes.
Il y a eu déjà une attaque en 2016 en Côte d'Ivoire, dans une station balnéaire assez connue à côté d'Abidjan, Grand Bassam. C'était d'ailleurs des jeunes qui étaient descendus du Mali, qui s'étaient fondus dans la population. Il faut imaginer que, bien sûr, les populations circulent beaucoup dans cette région. Et donc, il y a déjà eu un précédent, donc en Côte d'Ivoire, maintenant le Bénin. D'une certaine manière, j'ai envie de dire, il y a aucune limite. Il n'y a aucune limite géographique. Encore une fois, je pense que c'est une action... Je vois pas les groupes djihadistes s'emparer, si vous voulez, d'une portion du territoire du Bénin. Mais par contre, ils peuvent faire beaucoup de dégâts en menant ces actions coup de poing.
À l'inverse, effectivement, on attend effectivement une revendication ou pas. Si il s'avérait que c'était quelque chose de plus crapuleux, parce qu'après tout est encore sur la table, est-ce qu'on le saurait déjà, selon vous, si cet enlèvement de deux Français n'était que, entre guillemets, crapuleux ?
Ah, très difficile à dire. Bien sûr, si c'était crapuleux, à ce moment-là, par des intermédiaires, oui, je pense qu'on peut faire passer une demande de rançon. Je crains quand même le fait que les deux Français aient disparu depuis près d'une semaine, que ça soit vraiment une action organisée, structurée. Et là, ça veut dire qu'il va falloir engager des négociations et verser des contreparties, que ça soit des contreparties financières ou répondre en tout cas à des demandes. Ça peut être des demandes de libération de prisonniers et autres, mais ça promet à ce moment-là d'être long.
Thomas Hoffnung, chef des rubriques politiques et internationales du site de Conversation. Merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Sintès, Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe en Autriche et son passage à 100% sans nucléaire. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe aujourd'hui autour de la centrale, sous les radars et Amélie Perrier, où on parle de peste en Mongolie, de rap islamique et de Dolly Parton, figurez-vous. La chronique pour tous de Julia Fox. Bonsoir Julia.
Bonsoir.
Chronique pour toutes d'ailleurs, ce soir principalement avec une invention qui vous a beaucoup plu et qui concourt au concours Lépine.
C'est ça, des urinoirs pour toutes. Vous verrez, c'est éminemment politique, Fabienne.
Absolument, et on a vu les photos d'ailleurs.
C'est joli, c'est
intriguant, on va dire ça comme ça. Le Monde à l'envers et Jean-Marc Faux. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Ou comment Erdogan en Turquie se porte plutôt bien. On le croyait moins en forme, ce président turc. Il a réussi à faire annuler l'élection à Istanbul.
Exactement. Il est puissant, il est adroit, il a de la ressource et il va pas falloir l'enterrer trop vite.
Allez, le tour de la planète n'est pas fini. Il commence à peine. Il passe par Porto Rico avec cette reprise géniale de Light My Fire des Doors, signée José Feliciano.
It would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, yeah, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Hesitation's true. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set me.
Formidable cette version de Light My Fire de José Feliciano, je pense d'ailleurs, parce que je l'ai mis un tchieu tout à l'heure, mais il fallait pas. Allez, Amélie Perrier passe sous les radars, quelle souplesse.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasmacho Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Que je vous dise. Allez, la Mongolie voilà. Peut souffler, Amélie. Aujourd'hui, elle a levé ses mesures de quarantaine.
Quarantaine imposée il y a une semaine à cause de la mort d'un couple à la frontière avec la Russie et la Chine. Les deux Mongols sont morts de la peste. Mais comment ont-ils pu attraper cette maladie tout droit sortie du Moyen-Âge? Eh bien, ils ont mangé, nous dit-on aujourd'hui, de la marmotte crue, de la viande et des reins de marmotte crue. Le Siberian Times rapporte qu'une vieille tradition attribue à cette viande des bienfaits pour la santé. Alors, après la mort du couple, les autorités ont imposé une quarantaine dans toute la ville d'Olgi. Des touristes ont donc été bloqués là pendant une semaine. Quarantaine qu'ils ont pris avec décontraction, hein, comme cette vidéo le montre. Voilà, fin de repas très arrosé. A priori, pas de marmotte au menu, mais des digestifs pour faire passer tout ça. Plus sérieusement, ce que l'on découvre ici, c'est que la peste existe encore sur Terre, beaucoup plus rare qu'au Moyen-Âge. Elle peut même se traiter par antibiotiques. L'Organisation mondiale de la santé la considère comme une maladie réémergente, une maladie de la pauvreté. À 90%, elle touche l'Afrique, Madagascar, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et la Tanzanie. Entre 2010 et 2015, on a recensé un peu plus de 3200 cas dans le monde et c'est 584 personnes sont mortes de la peste bubonique.
Amélie, en plein ramadan, voilà une nouvelle pratique de l'islam qui divise en Irak.
Du rap islamique, ça se passe à la mosquée dans la région de Najaf et le prêche sonne différemment ici. Alors voilà, cette foule d'hommes scande en rythme des latmiyat, des vers chantés retraçant l'épopée et le martyre des imams ou d'autres figures de l'islam chiite. Ça, c'est très traditionnel. On les récite en se tapant la poitrine avec les bras croisés. Mais pour amener les jeunes dans les mosquées, on y a mis des accents de rap. Et ça fonctionne. Mosquée pleine, le rap électrise les prières, le rap islamique husseini, en référence à l'imam Hussein, figure fondatrice du chiisme. Ce rap séduit les musulmans qui s'étaient lassés d'un islam trop rigoriste et conservateur, sauf que cela ne plaît pas du tout aux plus traditionalistes, justement. Alors, des mouvements religieux déviants ont émergé, dit à l'AFP ce chef religieux de Najaf. Il s'appelle Latif al-Hamidi. Il profite, dit-il, de la passion des jeunes, de la réticence pour la religion. Ils incluent des thèmes non religieux à la religion et ajoutent des éléments absurdes comme le rap, un non-sens, dit-il. Officiellement, les autorités chiites ne condamnent pas ces nouvelles latmiyat rappées. La pratique reste minoritaire et n'a pas encore résonné entre les murs des lieux les plus saints de la région, les mausolées de Karbala et de Najaf.
Voilà, les latmiyat rappées. Donc, un autre refrain pour
ça
terminer.
Ça ne se mange pas.
Non, voilà, c'est là que j'allais. Je vous en prie. Allez-y, sinon, comment va Dolly Parton?
Oui, la chanteuse Dolly Parton. Donc, vous connaissez.
Bah oui, très bien, bien sûr. I'll think of you each step of the way, and I
will always love you. Ah oui, vous adorez. Encore plus que Whitney Houston.
Alors, pas
sûr. Version 1983, ça vous rappelle.
C'est bien de se rappeler que c'est elle qui a...
La première, absolument. I will always love you.
Ça l'a rendu riche, j'imagine.
Oui, alors assez. Mais c'est pas pour ça que le FBI vient de la distinguer aujourd'hui,
non,
pas pour cette chanson. En fait, l'agence américaine vient de saluer ses efforts en faveur des victimes des incendies dans le Tennessee en 2016. La chanteuse est originaire de la région et quand les feux ont ravagé des hectares, tué une douzaine d'habitants et détruit des centaines d'infrastructures, eh bien elle a mis à disposition sa fondation, la Dollywood Foundation,
ah.
Oui, ça s'appelle comme ça,
ah,
pour
oui,
lever
bien.
Des fonds. Elle a pu reverser à 900 familles 10 000 dollars chacune, ouais quand même. Dolly Parton est une chanteuse au grand cœur, par le passé elle s'est déjà engagée pour monter une bibliothèque qui envoie des livres gratuits tous les mois à des jeunes enfants. C'est pour ça qu'on l'aimera toujours, Dolly Parton.
Oh, comme je vous sens venir. I hope life treats you kind, and I hope that. C'est quand même un peu ringard quand même.
J'espère que
si
la
je
vie
permettre.
Vous traitera gentiment. Bah, aussi,
j'espère
Fabienne.
Aussi, oui, parce que quand même, je l'ai bien mérité. Amélie Woodperrier, je vous remercie beaucoup. On se retrouve demain.
À demain.
Soyez sages.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo.
Les routes
France Inter.
Et c'est en Autriche que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. L'Autriche nous intéresse, nous qui venons officiellement de reporter à 2035 l'objectif de 50% d'électricité seulement issue du nucléaire. L'Autriche, elle, a totalement renoncé à l'énergie atomique. Bonsoir Isor Yas.
Bonsoir Fabienne.
Isor, pour bien comprendre comment l'Autriche est passée à l'après-nucléaire, vous nous emmenez d'abord à Zwettendorf, où se trouve la seule centrale nucléaire d'Autriche, et c'est désormais une centrale fantôme.
À seulement une heure de route de Vienne, Zwettendorf offre un véritable voyage dans le temps. La centrale nucléaire qui se dresse sur ce site est en effet restée totalement figée dans les années 70. Et pour cause, bien que sa construction fût entièrement achevée lors de cette décennie, elle n'a jamais été mise en service. Car en 1978, les Autrichiens ont dit non par référendum à l'énergie atomique. La centrale est donc restée telle qu'elle et a dû se réinventer au fil des ans, comme l'explique Stefan Zahr de l'entreprise EVN, propriétaire de la centrale.
Pendant 30 ans, tous les projets à Zwentendorf ont échoué. Il n'y a eu qu'un seul plan raisonnable, celui du propriétaire qui voulait convertir l'installation en une centrale au gaz, mais ce n'était pas rentable. L'idée a donc été abandonnée. Il y a eu aussi le projet d'un artiste autrichien renommé, Friedensreich Unterwasser, qui voulait créer ici un musée des mauvaises technologies. Mais finalement, Zwentendorf a aujourd'hui d'autres fonctions. Elle sert notamment de centre d'entraînement au démantèlement. On apprend aux autres comment les centrales similaires peuvent être démantelées avec le moins de risques possible.
La commune de Zwentendorf comptait beaucoup sur cette centrale pour l'activité économique de la région. Le référendum a donc provoqué quelques inquiétudes, vite estompées toutefois, selon Hermann Kutreiber, qui fut maire de la ville pendant 27 ans.
200 personnes devaient travailler à la centrale. Pour eux, ça a été évidemment une catastrophe. Mais en 2003, une usine d'incinération de déchets a ouvert ici. D'autres entreprises sont alors venues car elles avaient besoin de cette énergie. Et elles ont donc créé à nouveau des emplois. Si on fait le bilan de tout ça, je dirais que la commune n'a subi aucun préjudice.
La centrale nucléaire devait fournir en électricité 1 800 000 foyers. L'Autriche a donc dû compenser et a construit dans un premier temps une centrale à charbon, non loin de Zwentendorf. Mais elle aussi devrait bientôt fermer ses portes, car le pays mise sur le renouvelable et vise 100% d'électricité verte en 2030. Aujourd'hui, c'est déjà 70%, en grande partie grâce à l'énergie hydraulique et aux dizaines de centrales installées le long du Danube, comme Altenwörth, qui fournit en électricité 500 000 foyers et où travaille Florian Seidel.
Nuclear is a very dangerous technique. Nuclear is a very uncertain technique because
le nucléaire, c'est une technique incertaine et dangereuse, car l'uranium est une ressource limitée et les risques d'accident sont évidents.
France has the luck, like Austria, to have a lot of.
La France a la chance d'avoir, comme l'Autriche, de nombreux fleuves qui pourraient être utilisés comme source d'énergie renouvelable. Et en Autriche, on voit que le prix de l'électricité est légèrement en dessous de la moyenne européenne. Cela prouve donc que les principales énergies renouvelables ne coûtent pas si cher.
L'Autriche est aujourd'hui à la tête de la cause antinucléaire en Europe. Vienne a ainsi contesté devant le tribunal de l'Union européenne les subventions accordées par le Royaume-Uni pour la construction de sa centrale nucléaire de type EPR à Hinkley Point. Déboutée en première instance, l'Autriche a fait appel. Elisabeth Köstinger, ministre de l'Environnement.
Nous nous positionnons clairement contre l'énergie nucléaire dans toute l'Europe, car nous pensons que le soutien devrait être apporté au développement des énergies renouvelables. Lorsque des milliards d'euros sont investis dans de nouvelles centrales nucléaires, alors c'est une concurrence déloyale pour le développement des énergies renouvelables. Nous avons montré en Autriche qu'il y a des alternatives. Il faut le faire. Il faut investir. C'est peut-être la voie la plus difficile, mais c'est la meilleure.
Constat partagé par les ONG qui exigent toutefois plus d'efforts du gouvernement. Car certes, les énergies renouvelables permettent de produire la majeure partie de l'électricité autrichienne, mais l'électricité n'est qu'une petite part de l'énergie consommée par le pays. Il reste beaucoup d'efforts à faire dans d'autres secteurs, selon Reinhard Uhrig de l'association Global 2000.
Wir haben jetzt das dritte Jahr in Folge unseren.
L'Autriche a dépassé pour la troisième année consécutive la limite d'émissions de gaz à effet de serre qu'elle s'était fixée. Nous avons un immense problème en ce qui concerne les transports. Comme dans de nombreux pays, les transports représentent 29% de nos émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement autrichien doit donc prendre des mesures dans ce secteur, mais aussi dans l'économie d'énergie pour les bâtiments, qui doivent être rénovés bien plus rapidement qu'aujourd'hui.
Aujourd'hui, plus de 40 ans après le référendum, 90% des Autrichiens se disent opposés à l'énergie nucléaire. Ce refus est même inscrit dans la constitution du pays depuis 1999.
Isorias pour le reportage en Autriche pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup et à très vite. Anderson .Paak est sur France Inter. C'est la playlist de France Inter. Elle vient de Californie et la chanson s'appelle King James. Anderson .Paak, King James sur France Inter. Mesdames, messieurs, auditeurs en tout genre, Julia Foyce est sur la place.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Sintès.
You are scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
Et comme chaque semaine, Julia, dans la chronique pour tous, vous nous donnez des nouvelles des femmes, des sexismes et autres discriminations dans le monde. Bonne ou mauvaise nouvelle, on commence par une bonne.
Oui, ça va nous changer. Elle nous vient du Brunei. Les homosexuels, attention Fabienne, ne seront pas tués à coup de pierre pour le moment. Youpi. Souvenez-vous, on en avait parlé ici le mois dernier, Le sultan Hassan al-Bolkiah leur avait promis la peine de mort par lapidation, suivant son interprétation de la charia, devant la levée de bouclier internationale venue aussi bien des États membres de l'ONU que des ONG ou de personnalités publiques comme George Clooney. Je peux pas m'empêcher de faire un.
Ouais, c'est vrai, à chaque fois.
Vous avez remarqué?
Je vois bien.
Il a reculé.
C'était son anniversaire, on l'embrasse.
Bisous, bisous, Georgie. Il a reculé, très légèrement, on appelle ça, alors je parle sous la tutelle de Jean-Marc Four, on appelle ça une reculette en langage non diplomatique. sympathique. C'est un moratoire temporaire, donc, qui vient d'être prononcé, motivé par ce que le Brunei appelle une mauvaise perception de ce qu'il a voulu faire. Alors, je sais pas, c'est peut-être sur la taille des pierres qu'on s'était mal compris. Ce qui reste très clair, en revanche, c'est que les couples d'hommes ou de femmes risquent toujours 10 ans de prison s'ils se font choper. Faut pas exagérer non plus.
On enchaîne avec la vidéo de la semaine.
Elle tourne en boucle en ce moment au Maroc sur les réseaux sociaux, conçue par une marque de détergent à l'occasion du Ramadan. Le dispositif est minimal. Un plateau nu, un seul spot de lumière, une chaise sur fond noir. Sur cette chaise vont défiler des hommes, vieux ou jeunes, en chemise ou en survêt. Ils s'appellent Amin, Nabil et Rachid. Sagement, ils obéissent au protocole et se présentent à la caméra. Et puis ils se taisent et ils regardent. Face à eux, sur un écran géant, des mains en noir et blanc, ridées, craquelées, cabossées. Elles sont calleuses, ont l'air rugueuses. Devinette, à qui appartiennent-elles? Rachid, Amin, Nabil répondent. Ce sont des gens qui vivent dans la rue ou à minima qui travaillent dehors avec des métiers difficiles. Ça, ils en sont sûrs. À tous les coups, ce sont des mains de peintres en bâtiment, de plombiers, de jardiniers. En tout cas, ils sont vieux, hein, très vieux. Tous sont d'accord là-dessus. Sauf que des visages apparaissent alors à l'écran, ceux à qui appartiennent ces mains, ou plutôt celles. Ce sont les mères, les femmes, les sœurs de Nabil, d'Amin, de Rachid. Stupéfait, il rit d'abord, nerveusement, et puis, comme sortie de l'écran, elles les rejoignent sur le plateau. Alors les yeux se mouillent un peu, alors les corps s'embrassent et s'enlacent. Rachid, Nabil, Amin demandent pardon et promettent d'en faire plus, désormais. À la maison. Je sais, les esprits chagrins trouveront ça lénifiant, peut-être, mais c'est aussi touchant suffisamment pour que la vidéo en quelques jours ait été vue 1 200 000 fois. Et à ceux qui nous écoutent et qui, assez rapidement, seraient tentés de dire « Oh là là, les hommes sont vraiment pas civilisés de l'autre côté de la Méditerranée. Non mais, vous avez vu comment ils traitent leurs femmes? Elles se tapent tout le boulot, tout ça, on est en 2019. Non mais oh, je fais trop bien l'auditeur. »
Oui, vous le faites très très bien. Okay, très bien. Et ben, vous pouvez appeler au téléphone, sonne 01 45 24 7000.
J'appellerai tout à l'heure, je maquillerai ma voix. À eux, je me contenterai de rappeler que selon le dernier rapport de l'INSEE, de ce côté-ci de la Méditerranée, chez nous, donc en France, hein, les femmes consacrent toujours 3h et 26 minutes de leur temps aux tâches ménagères contre 2h pour les hommes. Alors oui, ça change, oui, ça bouge. Oui, ça s'équilibre doucement. 2h de repassage de ménage ou prioritairement de bricolage par semaine pour les hommes, c'est tout simplement 1 minute de plus en 10 ans.
Allez, Jean-Marc a promis qu'il resterait dans le studio à la fin de cette émission, donc on termine avec l'objet de la semaine.
Qui a attiré beaucoup de curieux au concours Lépine ces derniers jours, ligne élégante, couleur flashy et tout en courbe hélicoïdale. Il s'appelle Lapi et vous assure une paire royale au moment où vous en avez le plus besoin. C'est un urinoir de plein air pour femmes. Oui, Fabienne, l'urinoir, c'est le seul objet qui, à ce jour, n'existait que pour les hommes, dans les festivals par exemple, dans des zones sinistrées ou encore dans des camps de réfugiés. C'est à ces endroits-là que pensait Gina Perrier, toute jeune architecte française, quand elle a conçu son Lapi. Résidant au Danemark, où l'on a, disons, une vision peut-être un petit peu plus pragmatique du corps des femmes, elle s'est souvenue que si nous étions bien évidemment des princesses en voilette et au cœur pur, nous avions aussi parfois besoin de pouvoir s'isoler en toute sécurité, plutôt que de partir s'accroupir dans des buissons et de croiser en chemin des voyeurs ou des orties, je ne sais pas ce qui est le pire. D'où la petite marche prévue pour accéder à l'urinoir qui, avec ses parois d'1,65 m, vous permet à vous de voir à 360 degrés autour de vous sans vous faire mater pour autant. Cadeau bonus, l'Api est parfaitement recyclable, totalement écolo, comme quoi l'égalité et la protection de l'environnement, ça passe aussi par les toilettes. Si, si.
Allez, l'Api, L-A-P-2-E. Je dis ça parce que c'est intéressant d'aller voir à quoi ça ressemble sur Internet. C'est vrai qu'elles sont roses.
Après,
ces toilettes.
Rose, moi, je discute. Hein.
Ça marche par trois.
Je suis pas sûre. Oui.
Donc, ça veut dire qu'on peut discuter pendant, ce qui est aussi un avantage. Mais bon, vous nous donnerez votre avis. Moi, je continue à trouver ça un peu bizarre. Maintenant.
Moi, je conteste juste le rose, mais bon.
Oui, aussi. Voilà. Faites-le, je sais pas, moi, en bleu. Allez.
Vous êtes subversive.
Le 18h. Fabienne Saintès. Sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, il y aura donc 2 nouvelles élections municipales à Istanbul. Ça se passera en juin prochain, le 23 vraisemblablement. Le scrutin qui avait vu début avril la victoire de l'opposition dans la plus grande ville de Turquie a été invalidé ce matin. Ceux qui avaient vu dans ce résultat le début du déclin du président turc Erdogan vont devoir donc y réfléchir à 2 fois. Erdogan est très loin d'avoir dit son dernier mot et c'est votre monde à l'envers.
Petit flashback, il y a 36 jours, voici ce qu'on pouvait lire dans une partie de la presse occidentale. Fin de règne pour Erdogan, camouflet cinglant pour le président turc, victoire de la démocratie, etc. Beaucoup voyaient donc un point de bascule dans le succès du candidat de l'opposition Ekrem İmamoğlu dans cette Istanbul contrôlée par Erdogan et son parti depuis 25 ans. et s'était allé un peu vite en besogne parce que la suite était prévisible. Prévisible qu'Erdogan n'allait pas se laisser faire et c'est exactement ce qui s'est passé. Avant même d'ailleurs la proclamation des résultats, son parti les a contestés en soulignant combien l'écart entre le vainqueur et le perdant était faible. 13 000 voix sur 9 millions d'électeurs. Puis la machine à caper, le parti d'Erdogan s'est mise en marche. Des enquêtes de police ont été ouvertes sur près de 40 000 électeurs jugés suspects. On ne sait trop pour quelles raisons. Certains se voient aujourd'hui accusés de maladie mentale, rien que ça. Et surtout, la commission électorale, mise sous pression, a donc fini par céder. Sur ses 11 membres, 7 ont opté hier pour une annulation du scrutin, au motif que certains assesseurs électoraux n'étaient pas fonctionnaires assermentés. Et sinon, la commission aurait trouvé autre chose. C'était prévisible parce que l'AKP n'en est pas à son coup d'essai en fait. Déjà lors des deux scrutins précédents, le référendum de 2017 et la présidentielle de 2018, la transparence du scrutin n'avait pas été assurée, c'est ce que dit l'Union européenne. L'opposition a beau évoquer aujourd'hui un putsch contre les urnes, je cite, ça ne changera rien, Istanbul va donc voter à nouveau le 23 juin.
Mais alors pourquoi le résultat serait-il différent le 23 juin ?
Et parce qu'Erdogan n'est pas loin d'avoir tous les pouvoirs, c'est en cela, surtout qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite. Le référendum de 2017 lui a attribué un champ d'intervention considérable avec un pouvoir personnel renforcé. Rappelons que lors des trois dernières années, plus de 50 000 personnes ont été arrêtées, plus de 150 000 fonctionnaires limogés. La justice n'est plus que l'ombre d'elle-même, soumise au pouvoir exécutif. La banque centrale a perdu son indépendance. Et la presse est muselée, les grands médias nationaux publics et privés sont aux ordres. Ils accordent un temps de parole outrageusement favorable au parti du président. Plus de 30 journalistes sont incarcérés et l'agence de presse nationale Anadolu a l'art de donner les résultats des scrutins avant même le dépouillement. Erdogan s'appuie également sur un réseau politique local très structuré et son parti contrôle toujours la plupart des districts d'Istanbul où pour le coup, là le scrutin a été validé. Il fonde toujours sa légitimité sur l'électorat sunnite conservateur qui en dehors des grandes villes d'Istanbul et d'Ankara continue de lui donner une majorité nette, 52% des voix quand même pour l'AKP au niveau national lors de ces dernières municipales. Enfin, n'oublions pas que Erdogan, c'est un politicien habile. Il sait flatter les instincts identitaires et nationalistes des Turcs. Donc oui, il a beaucoup de cartes dans son jeu pour inverser le résultat.
Donc Jean-Marc, la suite c'est quoi ?
Alors ce scrutin du 23 juin dans la grande mégalopole turque s'annonce en fait comme assez crucial parce que ça peut être un tournant majeur pour la Turquie. Soit Erdogan réussit son pari et il inverse le résultat initial. Alors il aura les mains totalement libres pour les 4 ans à venir parce qu'aucun scrutin n'est plus prévu en Turquie jusqu'en 2023. 4 ans, ça lui laisserait le temps de chercher à relancer l'économie. Le pays va mal, chômage à 14%, inflation à 20% et surtout de renforcer encore son autoritarisme. Soit au contraire, l'opposition réitère sa performance, l'emporte à Istanbul. Le président turc sera sans doute contraint alors de composer avec elle. Istanbul, c'est 20% de la population du pays, c'est 35% de sa richesse et beaucoup de ressources financières ne pourraient plus être utilisées par l'AKP à des fins clientélistes. Qui plus est, une partie de la presse pourrait enfin cesser de s'auto-censurer. Donc on comprend pourquoi d'ici le 23 juin, Erdogan va mettre tous les moyens possibles dans la bataille. Tous. L'Union européenne vient de demander à envoyer des observateurs internationaux pour ce scrutin. Ce sera un premier test révélateur. Si la Turquie accepte, ce sera un signe de transparence. Et c'est pour ça que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'elle refuse.
Jean-Marc Fouré, Le Monde à l'envers, tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne. Et puis juste avant, bien sûr, le journal de Sébastien Paour. Merci beaucoup de passer la soirée avec nous. Il est 19h tout pile sur France Inter.